Audiolib présente L'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen, traduit du danois par Caroline Berg, lu par Benjamin Jungers. Première partie. Chapitre 1. La météo n'était pas bonne. Il faisait froid, venteux, et la visibilité était mauvaise. Un temps détestable, même pour un mois de janvier en Angleterre. Les troupes de l'US Air Force attendaient depuis un moment sur le tarmac quand un grand Britannique dégingandé les rejoignit, mal réveillé. Un jeune homme, caché par un premier groupe de pilotes, se redressa sur un coude et leva la main pour attirer son attention. Le grand échalas lui rendit son salut en bâillant à s'en décrocher la mâchoire. Après une longue série de vols de nuit, revenir à un rythme normal tenait de l'exploit. La journée allait être difficile. Il commençait à y avoir du mouvement au bout des pistes, vers le sud. Ce qui voulait dire que le ciel ne tarderait pas à se remplir d'avions. Une perspective à la fois excitante et oppressante. Le major général Lewis H. Brerotons avait demandé l'aide de la Royal Air Force. Les Américains s'étaient en effet montrés très impressionnés par les pilotes de Mosquito de l'armée de l'air britannique, qui, lors des raids aériens au-dessus de Berlin au mois de novembre, avaient permis la découverte de l'un des secrets les mieux gardés de l'armée allemande. L'emplacement de la base militaire de Peenemünde, où étaient fabriquées les bombes V1, leur fameuse arme de représailles. On avait laissé au lieutenant-colonel Hadley Jones le choix des effectifs, et lui-même avait confié à son chef d'état-major John Wood le soin de veiller aux aspects pratiques de la mission. Le colonel avait sélectionné 12 aviateurs britanniques, 8 instructeurs et 4 copilotes, pour accomplir une mission d'observation, sous le commandement de la 8e et de la 9e US Air Force. Des chasseurs Mustang P-51D avaient été spécialement équipés d'un siège d'observateur placé derrière celui du pilote, d'appareils photographiques d'une technologie avancée, ainsi que d'instruments optiques ultra-sensibles. James Teasdale et Brian Young avaient été recrutés 2 semaines auparavant. Ils seraient les premiers à utiliser ces équipements en conditions dites « réelles ». Et cela, alors qu'ils pouvaient s'attendre à repartir au combat de façon imminente. Une attaque des centres de construction aéronautique de Oschersleben, Brunswick, Magdebourg et Halberstadt était programmée pour le 11 janvier 1944. James et Brian râlaient de voir leur permission de Noël ainsi écourtée. Ils en avaient assez de cette sale guerre. 2 semaines pour se familiariser avec cette machine infernale, soupira Brian. Je ne comprends rien à leur technologie. Pourquoi Oncle Sam ne prend-il pas ses propres pilotes pour monter dans ces satanés zincs ? John Wood leur tournait le dos, penché sur ses cartes. Parce qu'il vous a choisi, vous. Ce n'est pas un argument. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur des attentes de l'armée américaine et que vous rentrerez de cette mission sain et sauf.
C'est une promesse ?
Oui. Et dis quelque chose, James ! Lança Brian à son camarade, qui resserra son foulard et haussa les épaules. Brian s'écroula sur une chaise. Impossible de compter sur James. La mission devait durer au maximum 6 heures. 650 bombardiers lourds de la 8e US Air Force attaqueraient plusieurs usines aéronautiques, sous escorte de chasseurs P-51 à long rayon d'action. Durant ce raid, le Mustang de Brian et de James quitterait le convoi. Certaines rumeurs tenaces affirmaient qu'à Lowenstein, au sud de Dresde, en Allemagne, on avait observé ces derniers mois un arrivage anormal d'ouvriers du bâtiment, ingénieurs et techniciens spécialisés, ainsi que de forçats polonais et soviétiques recrutés dans les camps de concentration. D'après les services secrets, on construisait effectivement quelque chose dans le secteur, mais on ne savait pas quoi. Peut-être des usines de combustible de synthèse ? Auquel cas, c'était une catastrophe. L'Allemagne risquait de prendre de l'avance dans la fabrication de bombes volantes. Brian et James avaient pour mission de cartographier la zone aussi précisément que possible, et surtout le réseau ferroviaire autour de Dresde,